Radicaux Libres. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres dont les derniers opus sont disponibles sur la page Radicaux Libres sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler cette semaine du fléau de la drogue. On a appris la semaine dernière que les ministres et leur cabinet allaient être dépistés pour rechercher des traces de coke, des traces de 3MMC, des traces de cannabis et autres drogues. On apprend cette semaine que les résultats ne seront pas rendus publics. Pourtant, même anonymisé, savoir quel pourcentage de nos dirigeants se défoncent aurait été intéressant, juste pour savoir s'ils s'inscrivent dans la moyenne de la population globale, puisque c'est les membres du gouvernement et de leur cabinet sont plutôt dans la tranche la plus favorisée de la population. Non pas qu'ils ont eu les faveurs du destin, mais souvent, ils sont nés quelque part, ils sont nés de quelques-uns, ce sont des héritiers, et pour d'autres, bien, ils ont réussi à accumuler pas mal de pognon en faisant une petite carrière dans la politique, et oui. La corruption est très présente dans le personnel politique. Quoi ? Qu'est-ce que je dis ? Je complote ? Eh ben non, c'est pas moi. Ce sont les chiffres qui le disent. Pourtant, donc, même anonymisé, on aurait bien voulu savoir, mais ça fera partie des trucs à déballer quand la démocratie sera vraiment présente dans cette société. On aurait pu vous parler des gentils nazis. Pour qui l'Assemblée nationale fait des minutes de silence, souvenons-nous quand même. Encore une affaire de terrorisme de droite, et oui, les médias parlent de l'ultra-droite en oubliant de mentionner que les idées de hiérarchisation des populations, du racisme systémique et du fait de se débarrasser par divers moyens des populations qui ne vous plaisent pas parce qu'elles ne rentrent pas dans le cadre de votre logiciel racial, eh oui, on peut le dire comme ça, eh bien ça c'est des idées de droite. Atypiquement, ouais. Même les cathos, hein, bah oui, parce qu'ils n'ont pas lu le bouquin, en fait. Ou alors, ils en ont lu un, mais qui les a rangés. Ah ouais, celui-là, il est bien. Quand il dit, puis Jésus, non, la solidarité, ce n'était pas du tout son truc. Donc, du coup, 6 hommes, dont un ancien policier des renseignements territoriaux, et 2 militaires sont passés devant le tribunal correctionnel de Paris cette semaine pour entreprise terroriste. Un mineur, au moment des faits, a déjà écopé de 3 ans et demi de prison. Dans ces histoires de terrorisme d'ultra-droite qui encombre les parquets, on trouve souvent des bidasses et des forces de l'ordre en activité ou à la retraite. Nos soi-disant représentants devraient peut-être prendre conscience que diffuser les idées racistes et la peur de l'étranger, oui, tout au long de leur discours, hein, on peut parler de M. Retailleau, on peut parler de M. Wauquiez, on peut parler bien sûr de toute l'extrême droite, de Zemmour à Marine Le Pen, avec tous ceux qui leur sont affiliés. oui, une petite liaison dangereuse. Eh bien, du coup, ça a des répercussions sur les esprits faibles, comme les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Aussi, une épreuve sur l'humanité des candidats au port de l'uniforme devrait être éliminatoire au concours de recrutement. Voilà, je dis ça. Ça pourrait quand même servir à limiter un petit peu les gros pervers un peu azimutés et en plus identitaires qui se retrouvent avec des moyens de coercition importants comme un flingue, un taser ou un bâton. On aurait pu vous parler du temps qu'il fait et qui passe. À attendre qu'il fasse moins chaud. Ah oui, on en passe du temps à attendre qu'il fasse moins chaud. La canicule est sur nous. Alors elle tue des humains, hein, bien sûr. Elle tue d'autres animaux, comme les animaux d'élevage enfermés dans des hangars. Ah oui, il paraît que c'est surprenant. Elle tue également des plantes grillées sur place. Elle stresse les arbres qui ne jouent même plus leur rôle de rafraîchisseurs naturels dans les parcs, tellement ils gardent leur eau pour eux, à force d'avoir peur de ne plus en avoir. Et pendant ce temps-là, les médias nous vendent des clims. Nos soi-disant représentants nous recommandent de nous mettre au frais et de boire de l'eau. Des heures et des heures de réunion pour arriver à ça. Parce que je rappelle quand même que pour un libéral, ce qui vous arrive, c'est votre problème. Comment ça, t'as pas de clim? C'est ton problème. Comment ça, tu voudrais qu'il y ait une action collective? Mais non, on est au gouvernement. On n'est pas du tout pour l'action collective. On est libéraux. Ah ben oui, le libéralisme, qu'il soit en économie ou autre, je rappelle qu'il est basé essentiellement sur l'égoïsme. Ce libéralisme fait du moi, du je et du narcisse à tout craint. Donc forcément, quand on les met au pouvoir, ces gens-là, ils vous disent de vous mettre au frais. Comment ça, vous n'avez pas de lieu où vous mettre au frais? Ah ouais, ben ça c'est votre problème. Ouh, et de boire de l'eau quand elle continue à couler, puisqu'il y aurait des petits soucis également d'approvisionnement dans certains endroits. À cause de quoi? Ben, à cause de la chaleur détraquant, que ce soit les moteurs, les pompes, l'électricité et compagnie. À un moment, ça manque un petit peu pour avoir accès à tous les services auxquels nous sommes habitués. Ben, ça m'a rappelé cette idée de se mettre au frais et de boire de l'eau, la sortie surréaliste d'un de nos soi-disant représentants dont j'ai mangé le nom et que j'ai pas réussi à retrouver, qui demandait au SDF de se mettre à l'abri à l'approche du confinement en mars 2020. Oui, le SDF à l'abri. Ouh là là, nos vies valent bien plus que leurs profits, mais les libéraux ne sont pas au courant. Ce serait bien d'essayer de leur rappeler. Alors on reparlera de la canicule la prochaine fois. Mais là, finalement, on a préféré continuer à s'intéresser aux 24 heures de Le Mans. Les 13 et 14 juin 2026 avaient lieu les 24 heures, alors pas n'importe lesquelles, hein, les 24 heures bagnoles. Nous avons vu la dernière fois que les 24 heures durent des semaines. Entre le pesage, le roulage, le tapage, la parade, le centre-ville de Le Mans est alors occupé par des adorateurs de moteurs. Le vendredi 12 juin, la parade a rassemblé des milliers de Pékins attachés à faire de belles images et à récupérer des babioles en plastique, des couvre-chefs ou des nounours en gélatine servant à vanter des marques. Elle a aussi rassemblé des opposants qui organisaient une parade à roulettes place des Comtes du Maine en fin d'après-midi le vendredi 12. Des opposants vite encadrés par des représentants de la maison Poulaga qui étaient là pour venir faire respecter les valeurs républicaines. Et en l'occurrence, à l'approche de la canicule, les valeurs républicaines du moment, c'était laisser des gens se faire arroser par des machins en plastique par d'autres personnes habillées en combinaison de pilotes qui défilaient dans des véhicules qui faisaient vrombir leurs moteurs. Être contre, c'était être anti-républicain. Nous avons vu alors à quoi ressemble un contrôle d'identité et à quoi il ne doit pas ressembler. On vous encourage à écouter l'émission de la dernière fois. La dernière fois également, nous nous étions quittés à l'orée du départ de la course. Une course qui a commencé à 16h le samedi 13 juin et qui a continué, comme ça s'appelle les 24 heures, pendant 24 heures.
Comme m'a dit Alexis, ça force à vivre. On peut le boire avant.
Il est 22h ce samedi 13 juin et nous sommes dans les files à l'entrée nommée Porte Nord, près de l'aérodrome, qui prend le statut d'aéroport d'ailleurs durant les 24 heures, tant il y a de jets privés qui viennent déverser les fameux riches qui ravagent la planète, si bien décrit par Hervé Kempf et Juan Mendez dans une BD documentaire parue en 2024 à partir d'un livre de Hervé Kempf qui était paru lui en 2007 où il indiquait, dont le titre était « Les riches qui détruisent la planète ». Ouais, là, il est passé à ravage. Bah, faut dire qu'en une quinzaine d'années, ça s'est pas arrangé. La file est bonne enfant. Hein, une foule de gens se pressent, billets à la main, pour accéder au circuit. Et d'autres sortent du même circuit, d'un pas décidé, sûrs de leur itinéraire, pendant que d'autres se plantent sur l'esplanade de cette porte nord, téléphone à la main, cherchant quelqu'un du regard. Quelques enfants jouent, comme ils auraient pu jouer n'importe où d'ailleurs, puisque les enfants, ça joue. Alors c'est un flot continu d'entrée et de sortie. La porte nord fait partie de la dizaine de portes accessibles aux piétons. Elle est aussi la porte d'entrée de véhicules. Une grande grille sépare le monde extérieur du Saint des Saints, le circuit. Je me plante devant la grille en question et j'entends ça. Je ne suis pas sur le circuit, bien sûr, hein, puisque moi, la grille, tout un flot de gens qui passent parce qu'il y a une espèce de rue, ensuite des gradins et ensuite le circuit. Et pourtant, on entend ça. « Vous entendez également qu'il y a comme quelqu'un qui commente. Eh bien oui, comme si les gens n'étaient pas assez sous le coup du bruit des bagnoles, il y a aussi des haut-parleurs qui crachent des commentaires de personnes qui nous expliquent comment la course se déroule. Un certain bras de paix, je crois, est présent sur le circuit pour tout nous dire. Un hélico nous survole aussi pendant que des bagnoles roulent le plus vite possible. Ouais, c'est le jeu. Abreuvant l'environnement de décibels en veux-tu, en voilà, au-delà des commentaires qui sont faits. Je ne vois que les gradins, en aucun cas les bolides. Et bah non, bah si de la porte vous voyez les bolides, ce serait pas la peine de rentrer. Et entre la grille et les gradins, encore un flot, mais pas un flot de bagnoles. À gauche, je vois des familles qui littéralement traînent parfois le petit dernier. Oui, alors bah, il doit avoir mal aux genoux là. Parce que bon, bah, les quelques centimètres ont fait que ça a dû l'écorcher. Des gens en basket ou claquette, souvent habillés de shorts et maillots de foot, d'autres sont plus organisés, dont on comprend qu'ils vont passer la nuit sur place. Ils sont munis de chaussures de rando, du sac de campeur qui va bien et de chapeaux à large bord qui permettent dans la journée d'éviter d'attraper un petit coup de soleil dans le cou. De l'autre côté, donc voilà à qui nous avons affaire. Du genre à qui on ne la fait pas. Hein. Campeur, chapeau à large bord. Des toujours prêts, sans doute scouts dans leur jeunesse. De l'autre côté, les mêmes, mais qui vont dans l'autre sens. Et oui, c'est un flot continu devant cette porte, devant ces grilles, de personnes qui vont d'un côté du circuit et d'autres qui vont de l'autre. Ils se ressemblent tous étrangement, se croisent sans rien se dire. Ce sont tout simplement, c'est tout un flot de spectateurs qui ne voient pas la course, mais vont vers la droite ou vers la gauche, parce qu'ils ont quelque chose à y faire. Durant le quart d'heure où j'ai pris le son d'ambiance, ça n'a pas arrêté. Des centaines de personnes me sont passées devant sans me voir. Par contre, ils ont vu le Maxus. Au-delà de la grille, à l'intérieur donc, là, dans, presque dans le sein des seins, égaré un utilitaire d'une marque chinoise que je ne reconnais pas et que certains spectateurs ne reconnaissaient pas non plus. Ces spectateurs dont le visage vagabonde avec un regard qui parfois se déporte un petit peu sur la droite ou sur la gauche au lieu de regarder bien droit devant où est-ce qu'ils vont, et ben voilà qu'ils aperçoivent un Maxus. Le logo, ils le connaissent pas. Le carénage, ce que l'on voit devant, ils le reconnaissent pas. Alors voilà deux hommes qui s'approchent. Regardent le devant, viennent à l'arrière pour vérifier le nom de ce fourgon dont ils ne reconnaissent pas le logo. Deux autres hommes viendront durant ce moment de prise d'ambiance. Parmi les spectateurs des 24 heures, on trouve assurément d'authentiques connaisseurs, capables de parler motorisation, chambre de compression, réglage de cylindre, mais en experts, hein, de ceux qui discernent sans coup férir la marque et le modèle, rien qu'au son du moteur. Et puis il y a ceux qui s'éblouissent dans les phares, sans même avoir de quoi se bayer le billet. Ceux qui se contentent de regarder par les interstices des plaques de béton qui constituent par exemple le mur d'enceinte du circuit le long de la route de Tours, juste après la porte du Tertre Rouge. Ah oui, bah on voit des phares à un moment, et puis au moment où la bagnole tourne, que se passe-t-il ? On l'aperçoit, on l'entreaperçoit. En tout cas, on voit un petit quelque chose au milieu de nos yeux éblouis. Donc, pas assez passionné ou pas assez riche pour flamber la moitié d'un RSA en un week-end, parce qu'au-delà du prix du billet, il faut se sustenter sur le circuit. Et sur place, le spectateur est totalement captif. Il est captif de ça. Mais il est aussi captif de tous ceux qui ont quelque chose à lui vendre. Et sur place, le spectateur captif peut bien essayer de faire jouer la concurrence, mais ça n'a pas beaucoup de sens quand les prix sont souvent identiques et très hauts. Les libéraux aiment l'idée de la concurrence pure et parfaite, mais une fois que le Pékin est enfermé dans ce circuit, l'opportunité devient bah, tout simplement de le plumer. Même la presse locale, qui n'a pas de cesse d'encenser l'événement, et consacre des pages et du temps d'antenne au fait que, quand même, la flambée des prix dès les entrées passées, bah, c'est peut-être abusé. Zone du panorama. On a quitté la porte nord et on se retrouve zone du panorama. On trouve alors un gigantesque parking et des centaines, je dis bien des centaines, alors que je pourrais peut-être dire des milliers, de bagnoles qui sont rangés là. Le long du grillage qui sépare le parking de la rocade, une rangée de véhicules se retrouve empoussiérée, comme dans les western spaghetti à la Sergio Leone. Car ici, on trouve un autre flot, un flot de piétons qui arrivent ou partent. On trouve aussi un flot de bagnoles qui entrent ou sortent. Et des humains et mécaniques qui agitent la poussière du sol. Cette poussière qui profite d'un petit vent pour venir s'amonceler sur les bagnoles près du grillage. Des bagnoles qui abritent leurs propriétaires ensommeillés parfois, malgré l'environnement. Parce que près du grillage, ben, on entend ça. Et oui, je crois avoir oublié de vous dire que, ben, au-delà du grillage et de la rocade, il y a le mur d'enceinte du circuit. Et donc, juste après, ben, les bagnoles qui tournent le plus vite possible, puisque c'est le but. La CO a compté 350 105 spectateurs. Un nouveau record après celui de 2025, 332 000. Des locaux, mais aussi des Malouins. Je vous renvoie à la dernière émission. Et des Rupins en jet, autant de personnes qui ajoutent aux émissions de gaz à effet de serre. Au-delà de l'irresponsabilité écologique de cette course, le symbole même des 24 heures est contestable. C'était déjà très bien compris par l'équipe de la revue Vivre et Survivre, à laquelle collaborait le mathématicien Alexandre Grothendieck, avant de bien grave péter un plomb. En 1972, dans le numéro 12 de la revue, eh bien, un article par un auteur ayant assurément lu Guy Debord et qui signe Didier Savard, je ne sais même pas si c'est son vrai nom, eh bien, celui qui avait lu Guy Debord et sa société du spectacle nous dit ceci à propos des 24 heures. Au niveau de l'espace comme au niveau du temps, la course automobile du Mans est une image concentrée des aspects principaux de la société moderne. En tant qu'épreuve sportive, les 24 heures du Mans représentent le nec plus ultra de la dépossession des gens. Le sport est devenu spectacle. Ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Cette dépossession et cette passivité forcée ne sont pas simplement le résultat du processus de spectacularisation du sport. Elles témoignent aussi de la distance chaque jour accrue entre les gens et la complexité du monde technique. Le Mans représente la consécration du sport compétition. L'idéologie de la compétition exacerbée y était élevé à son plus fort exposant grâce à la technique. La compétition n'est même plus le fondement du sport, c'est le sport qui est devenu le fondement de la compétition. Le Mans consacre les champions. Le coureur automobile devient vedette. C'est-à-dire que le représentant spectaculaire, qui comme la star de cinéma ou l'homme d'État, vit, agit, décide à la place des gens, mais le pilote de course tend de plus en plus à se confondre avec sa machine. Il en épouse la forme, se fond avec elle dans le bruit et la vitesse. Il tend de plus en plus à perdre son aspect humain et son identité. D'ailleurs, l'arrivée consacre plus la marque de la voiture victorieuse que son conducteur. On le voit encore cette année, c'est je ne sais plus quelle marque qui a gagné, c'est pas machin, c'est pas l'équipe bidule. Ça intervient après. On continue. Le pilote n'est alors plus finalement que le prisonnier et le faire-valoir du gadget scientifique. Par le biais de l'identification spectaculaire, les spectateurs font leur abandon et la soumission docile du coureur à sa machine. À travers le champion, c'est à celle-ci que des gens s'identifient. Ainsi, le triomphe du pilote débouche en fait sur le triomphe de la technique, la consécration de la bagnole reine et de l'idéologie technicienne. Compétition, vitesse, perfection technique, étroitement mêlées, sont leurs propres justifications. Le gigantisme cancéreux de la technique est à la fois le moyen et la fin du spectacle. Se souvenir que dans Vivre et survivre, il y a une critique importante de la science et donc de la technique, forcément, puisque science et technique sont très souvent liées. Et que dans la science, à partir du moment où on peut le faire, on le fait. Voilà le credo d'un certain nombre de scientifiques. Et pour ça, on a besoin de moyens techniques. Je continue. Le Mans, c'est aussi un extraordinaire rassemblement humain. Mais ce rassemblement n'est que celui d'une foule solitaire, c'est-à-dire la somme de l'isolement et de l'impuissance de chacun. Au-delà de la fête de la technique, on découvre la technicisation de la fête. La fête naît lorsque les gens se rassemblent et cette fusion remet tout en cause. Et d'abord, les rapports sociaux. Au contraire, la fête spectacle ne mime même pas le changement et la transgression. Elle est le renforcement de l'ordre social en place. Comme le temps libre s'est mis entre guillemets, mais des loisirs est partie intégrante de cet ordre, car les transgressions de la fête-spectacle restent dans la limite permise. Elles sont l'exutoire, la soupape de sécurité nécessaire à la bonne santé du système. De plus, les excès qui caractérisent ces transgressions, là aussi c'est entre guillemets, sont excès des valeurs et des produits de l'ordre social existant. Si bien que loin de subvertir ou de transgresser cet ordre, ils ne font que le cautionner et le renforcer. Excès de consommation, matériel idéologique, excès de gaspillage, excès de passivité. La fête spectacle, c'est le seul orgasme possible pour des masses châtrées par la société technicienne. Le Mans n'est qu'un gigantesque panneau publicitaire, une foire de promotion et de consommation des produits et des valeurs du système, du non-sens établi. C'est l'autoportrait de ce système proposé ou imposé comme objet de la contemplation et du désir des masses. L'adhésion totale des spectateurs à cet ordre spectaculaire n'est rien moins que leur adhésion totale à l'ordre social dont il est la représentation. Tout ce qui est mis en scène est ainsi admis et justifié par la foule. Ainsi, Matra, c'était une marque de l'époque, se voit accepté globalement dans sa totalité. Et Jean-Pierre Beltoise, c'était un pilote de l'époque, et le missile nucléaire ne sont pas dissociables. En acceptant l'un, on accepte aussi l'autre. Ouh, oh ben ça clash à moitié quand même. Comme quoi, déjà dès le début des années 70, on connaissait la toxicité de ce genre de course et la toxicité de ce qu'on appelle le sport-spectacle. Un sport-spectacle qui sait faire sa promotion. Depuis 2022, les voitures de course présentes aux 24 heures n'utilisent plus de carburant à base de pétrole, mais du Excelsium Racing 100, développé par Total. Oui, vous voyez, celui qui ne veut pas donner de sous, mais qui ne veut pas payer ses impôts correctement en France, mais qui veut bien verser des milliards à ses actionnaires, tout en dépensant une grande partie de ses investissements à rechercher encore et encore des ressources qui lui permettront de bousiller encore la planète. Voilà, donc c'est développé par Total, qui met maintenant sur le marché son Excelium Racing Evo, Evo pour évolution. Ce sont des carburants à base de déchets d'exploitation viticole. Ça a permis de réduire de plus de 50% les émissions de gaz à effet de serre sur le circuit. Mais attention, sur le circuit seulement, hein. Parce que voilà que la CO met ce genre de choses en avant. Par contre, les hélicos qui tournent pour faire de belles images, les milliers, que dis-je, les dizaines de milliers de véhicules mobilisés pour faire venir les spectateurs, mais aussi pour faire venir les équipes, pour faire venir les bagnoles, pour faire venir tout le matériel, pour faire venir les boîtes d'événementiel, pour faire venir les food trucks, pour... Ouh là là, ça en fait du monde. Cela utilise l'industrie pétrolière et nous abreuve de gaz à effet de serre. Mais rassurons-nous, la CO, consciente de sa place dans l'écosystème, ouais, ça se dit, pareil, c'est doté d'une démarche RSE, la responsabilité sociale des entreprises, avec chaque année un joli rapport démontrant que l'Automobile Club de l'Ouest va dans le bon sens, c'est sûr. Alors, où exactement, on n'en sait rien, mais c'est dans le bon sens. Elle a même une stratégie RSE qui repose sur trois piliers. Le premier, c'est l'engagement pour la planète. Engagement avec MANS, M-A-N-S bien sûr. Attention, Festival de phrases creuses, je cite, « Nos objectifs, optimiser la gestion énergétique du circuit pour favoriser la sobriété, gérer durablement nos ressources naturelles, développer des solutions de décarbonation de la mobilité. » Ah, développer, optimiser, favoriser, tout ça, eh ben, c'est pas très très clair à comprendre, surtout quand on voit quels sont les exemples qui nous sont donnés. La CO établit par exemple un bilan carbone, faisant croire que bon nombre de mercantis, que le CO2 est l'ennemi. Eh, c'est le dioxyde de carbone l'ennemi, c'est pas du tout mon activité. Mais n'oublions jamais de placer que la bagnole, là c'est la CO qui parle dans son rapport RSE, eh bien n'oublions jamais de placer que la bagnole n'est pas un souci, et encore moins les compétitions de bagnole. Ainsi, page 26 du rapport, on peut lire « Fait notable ». Le carburant des voitures de course et les pneumatiques ne pèse que 2,5% du total d'émissions de CO2. L'enjeu climatique d'un événement comme les 24 heures du Mans se situe donc principalement dans la mobilité des personnes. Et non dans la compétition elle-même. Et voilà, ben non, les opposants se trompent lourdement en remettant en cause l'idée de classement, la recherche de puissance, le virilisme sous-jacent à ce genre de sport-spectacle, le placement de produits publicitaires qui favorisent donc la consommation et donc l'hyper-consommation. Autant de notions qui ne sont même pas débattues. C'est pas la compétition qui est gênante, elle fait même pas de pollution. Dans sa stratégie pour la planète, la CO investit dans la séquestration du dioxyde de carbone, alors que la sobriété voudrait qu'on réduise les émissions, plutôt que de chercher à capter le CO2 émis et de le faire prisonnier, au prix d'une dépense énergétique. Eh ouais, quand tu te tires des balles dans le pied, parfois, tu fais ricocher. Engagement! engagement, MANS à la fin, bien sûr, c'est le deuxième pilier, pour une économie responsable, mais qui reste capitaliste, hein, rassurons le bourgeois. La CO est une association, mais le profit, ça l'intéresse. Un second pilier avec des objectifs du même tonneau que les engagements MANS pour la planète. Troisième pilier, extrait, la CO veut être leader de la mixité en sport automobile. Notre engagement aux côtés de Women in Motorsport, un programme de la FIA, donc la Fédération Internationale des Sports Automobiles, vise à rendre plus accessibles aux femmes les métiers du sport automobile, sur la piste comme dans les organisations. En interne, un accord entreprise garantit l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Et, de fait, c'est une obligation légale, monsieur ACO. Monsieur Fillon, je dirais. Monsieur ACO, c'est une obligation légale de traiter de la même manière les hommes et les femmes. Alors, comme c'est présenté comme un effort de l'ACO, je me demande si le reste, c'est pas un petit peu du même tonneau. L'ensemble du rapport sert à valoriser des actions pour que tout continue. Presque comme avant, avec des améliorations à la marge. Comme par exemple, traiter les déchets et les nuisances générées par l'activité de l'ACO. C'est le moins que tu puisses faire, monsieur ACO. Le but, là, par exemple, c'est 80% de valorisation des déchets. Ça veut dire que 20% des déchets émis par 350 000 personnes sur un circuit, eh bien, seront pas valorisés. Ça sera du déchet de déchets. L'air de rien, s'il n'y avait pas ce genre d'activité, il n'y aurait peut-être pas les déchets afférents. Eh bien, on risque de me répéter. Dans Survivre numéro 12, on pouvait lire « Le Mans n'est qu'un gigantesque panneau publicitaire, une foire de promotion et de consommation des produits et des valeurs du système. C'est du non-sens établi. » Ouais, du non-sens établi. Ok, que vous dire de plus ? Eh bien, qu'il faut aller faire un petit tour sur sarthe.demosphère.net pour être au courant de ce qui se passe dans notre belle contrée. Et par exemple, on apprendra que, je pense que la réunion de la semaine dernière n'ayant pas eu lieu, il y a une nouvelle réunion du collectif O72 qui se déroule toujours à la maison des paysans. C'est pas très loin de l'université Route de Laval. C'est 16 avenue Georges Auric. Réunion du collectif O72 qui lutte contre quoi ? Eh bien, contre des bassines. Vous savez, les grosses bassines, là, parce que là, c'est sûr, hein, faut continuer à faire exactement comme avant. La canicule nous le dit. Le bon modèle, c'est celui-là. Le productivisme, produire tout et n'importe quoi. Et surtout que ça se vende. Ça se passe à la maison des paysans, le collectif O72 qui veut respecter l'eau dans le 72, mais aussi ailleurs. Lundi 29 juin 2026 à 18h30, maison des paysans, 16 avenue Georges Auric. On aurait pu vous dire également qu'il y avait une réunion du collectif Déprogrammons Barbara Butch mardi 30 juin à 19h30. C'est à l'entrée du parc Banjean, près du lycée Bellevue, rue de Bellevue, tout au bout de la rue de Bellevue. Réunion du collectif Déprogrammons Barbara Butch. Organisons des actions solidaires. Ça commence comme ça, le petit intitulé. Bonjour, nous sommes le collectif Déprogrammons Barbara Butch. Nous avons constitué ce collectif lors d'une réunion publique qui a eu lieu au début du mois de juin, car nous avons appris que la mairie du Mans invite la sioniste Barbara Butch à jouer de la musique au Festival Plein Champ le samedi 4 juillet au Mans, en la présentant comme une militante de l'amour et de l'inclusion. Bon, ben voilà, eux, ce qui les embête, c'est que elle est plutôt pour l'intervention de Tsahal. Elle était pour la loi Yadan. Peut-être qu'elle n'a pas bien lu le truc, ou peut-être que carrément elle est d'accord, hein, à la manière d'un vulgaire Patrick Bruel ou d'autres qui passent leur temps, Arthur le présentateur, qui passent leur temps à nous faire croire que véritablement Israël a l'armée la plus morale du monde et qui ne parle pas du fait que c'est dirigé par l'extrême droite suprémaciste juive. Hey, mais moi j'y suis pour rien, hein, les Ben-Gvir, etc. Faut quand même essayer de lire un petit peu ce qu'ils racontent. Et Netanyahou, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Et ce qui se passe en Cisjordanie, c'est vrai ? Eh ben oui, c'est malheureusement trop bien documenté pour être faux, ce qui s'est passé à Gaza, etc. Donc, ça craint un petit peu quand même de soutenir ce genre de choses. Donc, du coup, il y a une réunion pour essayer de voir s'il y a des choses à faire. Mardi 30 juin 2026 à 19h30, entrée du parc Banjean, côté lycée Bellevue, rue de Bellevue. Oui, tout au bout de la rue de Bellevue. Bon, on l'a déjà dit, ça. Bon, ben voilà, on va se quitter parce que, tout simplement, il y en a d'autres qui veulent prendre la parole dans quelques instants, ou presque. Alors, en attendant de se retrouver dans une réunion de collectif ou dans une manifestation, je vous dis tout simplement, allez, au revoir. Mm-hmm.